RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Daniel Riolo et de Ludovico Bragnac, le PSG s'est imposé ce soir 2-1 face à Lille, affiche de la 12e journée de Ligue 1. Le PSG qui s'est imposé grâce à Mbappé et Neymar. Pépé a marqué un péno dans le temps additionnel, ça n'a pas suffi pour le LOSC qui est maintenant à 11 points du Paris Saint-Germain. Autre belle affiche de cette soirée, messieurs, c'est du tennis. Quart de finale du Rolex Masters de Paris. Eric Salio est à l'Accor Hotel Arena. Salut Eric. Salut Eric. Il n'est pas là, il y a...
Voilà.
On sera avec lui dans quelques instants. Premier set pour Roger Federer, hein, face à Nishikori. Voilà, sachez-le, messieurs.
Un Djoko Federer demain après-midi, c'est de la gueule.
Ouais, c'est pas mal, hein. Mmh. Pas de la gueule. Hein. Il va arriver hein, dans quelques instants. Eric Salio. Nous, en attendant. Tiens, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation du LOSC ce soir, Ludo? Est-ce que t'as été frustré finalement par le match de Lille?
Un peu, forcément. Moi qui suis beaucoup le LOSC cette année, forcément, quand je les vois jouer depuis le début de saison, je les ai trouvés timorés ce soir ou asphyxiés. Alors, à savoir lequel des deux, mais oui, j'ai pas trouvé ce match très emballant et l'idée de départ me semblait pourtant intéressante, c'est-à-dire que autant j'ai fustigé certaines équipes de manquer de panache en allant au parc, autant là jouer bloc bas. Parce que t'as des joueurs, je trouvais que l'opposition entre la défense à 5 parisienne, alors je sais pas si c'est parce que Daniel pointe le manque au niveau du numéro 6, ou alors est-ce qu'il craignait les deux flèches devant sur les côtés, à savoir. Mais voilà, l'idée me paraissait plutôt bonne de jouer un bloc plutôt bas pour laisser justement de l'espace, mais il y a bas et bas, c'est-à-dire que tu pouvais jouer à hauteur des...
Mais là, il tenait pas un ballon.
Ouais,
il
n'arrive
pas à tenir un ballon. Et les attaquants, il est touché.
On les a pas vus.
Thiago Mendes, on l'a pas vu.
Bamba.
Parce que l'idée.
Et puis on l'a un peu vu à la limite, mais Bamba, il a du mal à exister.
Pareil, sur le plan défensif, c'est plutôt bon de fermer l'axe. Ils savaient pertinemment qu'avec Mbappé et Neymar, ils allaient essayer de se trouver dans l'axe du terrain. Donc ils avaient libéré les côtés avec Bernat, c'est pas le meilleur arrière gauche qu'on ait vu du côté du Paris Saint-Germain. Et Meunier, ils avaient décidé de libérer les côtés. C'est là où Daniel et moi, on a pointé justement le manque de Cavani, parce que sur deux, trois actions, si Cavani avait été présent sur ces décalages...
Quand il y a eu tous les centres et tout ça, voilà. Et puis il fait de la place aux autres aussi.
Donc
il focalise un peu l'attention.
Donc le parti pris était intéressant, mais tu faisais partir les joueurs de beaucoup de trop bas, d'autant que normalement, ils ont les latéraux qui les accompagnent, t'as Leao qui peut garder le ballon un peu plus haut.
Ou le pauvre Leao, il n'a pas vu le jour.
Tu peux pas exister.
Pas vu le jour.
Donc, forcément, oui, déçu.
Je suis pressé, moi, d'entendre Galtier pour voir quel regard il va avoir.
On l'aura en direct, très certainement, en conférence de presse. T'es pas pressé d'entendre Eric Salio, Daniel?
Bah, Eric Salio, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous disent? Qu'il a déjà sa place au show pour Federer Djoko demain? Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent?
Bonsoir, Eric Salio!
Bonsoir à vous.
Bonsoir, Eric.
Bon, il est comment alors ce quart de finale là du Rolex Masters de Paris?
Effectivement, vous m'auriez appelé il y a un quart d'heure, je vous aurais dit c'est un match indécis, et puis ça a basculé très très vite en faveur de Federer puisque le score a enflé 6-4, 2-0 pour le Suisse alors qu'il y avait 4 partout. Nishikori tenait bien et puis Federer a accéléré et Nishikori n'a pas suivi le rythme, donc on se dirige effectivement, comme Daniel sort pour lécher les babines, vers un fantastique Djokovic-Federer demain après-midi, pas avant 16h30. Ce serait le 47e du nombre. Bon,
avec victoire de Djoko en 2-7.
Ah, ça je ne sais pas, je suis pas devin. Mais Djoko a souffert aujourd'hui, hein. Il a été vraiment chahuté par un
très bon Marin Cilic. En ce moment, Djoko, non?
Il est sur une très très belle série, il va récupérer la place du numéro 1, il est en train de sécuriser la place du numéro 1 pour la fin de saison, donc oui, tous les clignotants sautent au vert, mais Federer, qui à mon avis sera soutenu par la foule demain, il peut peut-être créer une surprise, même si on sent bien qu'au niveau des jambes, c'est plus tout à fait ce que c'était, mais il a cette faculté à très bien jouer les points importants, et là il est vraiment le maître dans ce domaine. Donc 6-4-2-0, 49 minutes de jeu, franchement on reste sur notre faim, parce que ça manque de sel, ça manque de saveur, contrairement au match d'avant qui était assez spectaculaire.
Merci beaucoup Eric, on revient de voir dans quelques instants. Victoire du PSG ce soir, 2-1 face à Lille. 11 points d'avance, on le rappelle, pour le Paris Saint-Germain au classement sur le LOSC. On va accueillir Rudy, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Rudy.
Salut les gars.
Salut Rudy.
Bon, t'es comment ce soir Rudy?
Rudy.
Bah, Rudy, hein.
Pour Rudy. T'es d'origine allemande?
Non, pas du tout.
Ah ouais. D'accord.
Pas du tout.
Bon, et t'es rassuré, toi, ou pas, avant le match de Ligue des Champions de mardi, là, face au Napoli?
On peut, rassurer, c'est un grand mot, parce que Lille n'a rien à voir avec Naples. Il n'y a pas la qualité technique pour ressortir le ballon qu'on peut avoir à Naples avec Amzik, Alan, etc. Mais rassurer sur un point, c'est le système à 3. Je trouve que ça se met de mieux en mieux en place. Par exemple, Kerrer aujourd'hui, même s'il n'y a pas une opposition folle en attaque, il prend de plus en plus confiance. Je trouve que la défense à 3, ça marche super bien. Bon, Jean-Bernard, comme vous dites, à gauche, c'est vrai. Moi, je trouve ça faible. Le seul point qui m'a un peu inquiété...
Il ne fait pas un centre, Jean-Bernard. Pas un centre. Il réussit pas un centre, le mec.
C'est toujours la même chose.
C'est
et
fou.
Il
va
avoir 10 minutes d'avance en profondeur. Il faut qu'il touche la balle 4 fois avant de centrer. Donc,
mais une question que je comprends pas pourquoi il tente pas Nsoki dans ce schéma-là, en poste pour poste.
Tente, ouais. Franchement, il est beaucoup plus.
Surtout qu'il a fait des bons matchs, jusque-là.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Il a été bon dimanche, mais il était en défense. Il était dans les trois de derrière.
Ouais, mais on sent que il a porté souvent la balle pour
moi. Mais je le tenterai quand même, Nsoki, plutôt que Bernard.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, je le tenterai, même s'il vient du centre de formation, quand t'es meilleur, peu importe où tu viens, peu importe là.
De toute façon, ça va être compliqué de faire pire que l'autre quand même.
Hein. Je suis tout à fait d'accord. Et dire qu'on attend le retour de Kurzawa, ça fait mal même. Mais bon.
Moi je l'attends pas, mais bon.
Ouais, j'attends pas, c'est quand on voit le niveau de Bernard, franchement.
Alors ça devrait être après la trêve internationale d'ailleurs, hein. Et Kurzawa, ouais. Et Dani Alves, hein. Saber Desfarges nous a fait remonter l'info tout à l'heure.
Mais tu crois que durant son absence, Dani Alves, il a inversé ses pieds, les gauchers, non?
J'en sais rien, mec. Non, je te parle des deux mecs à venir, de retour.
D'accord, parce que sinon.
Je sais pas ce que vous en avez pensé à la télé, mais moi, vu du stade, je trouve que dans la transition, ça va pas assez vite. Et contre le moment où on arrivera. Mais deux fois plus vite. Ça touche trop la balle. Ça se projette pas assez en bloc. Je sais pas, moi, j'ai trouvé que, des fois, on n'arrivait pas à les mettre en difficulté. On a mis du temps à ouvrir le score. Alors, ils ont joué bas, certes.
Ouais, ils défendaient très bas et ils ont défendu costaud, hein. C'est pas mal ce qu'ils ont fait derrière.
Ouais, c'était pas mal.
Ils se sont bien arrachés, je veux dire, quoi.
Je trouve qu'on a souvent vu Neymar et Mbappé loin de la surface. On voyait qu'il n'y avait pas un vrai neuf. Mais je sais pas, je trouve que pourtant, même Draxler, qui est pas un numéro 6, je sais pas, j'ai trouvé que ça se projetait pas assez vite. Et contre Naples, va falloir le faire parce que ça va pas être.
Oui, mais en même temps, t'auras pas une équipe à ce point regroupée derrière à t'attendre aussi. Donc, t'auras forcément un peu plus d'espace, que ce soit pour Mbappé, Neymar, tu vois. D'un côté, tu sais que tu vas forcément plus souffrir, mais tu auras toi aussi l'opportunité
Je vois ce que tu voulais dire. Ça a manqué de spontanéité ce soir. Il y a eu beaucoup de touches de balles, mais voilà, comme le disait Daniel, face à une défense regroupée comme ça, il faut essayer de porter le ballon, de créer des brèches. C'est jamais évident. Et comme tu le signalais, le but est l'inverse de tout ça, puisque c'est passe verticale de Verratti entre lignes pour Neymar, qui contrôle, qui se retourne, qui relance Mbappé. Donc sur deux passes, ils ont trouvé la verticalité. Mais c'est à force d'avoir usé cette défense et de l'avoir fait sortir aussi un petit peu, ils ont dû tenter des choses pour essayer de la déstabiliser.
On remercie Rudy qui nous a appelé au 32-16. Juste une petite image, puisqu'on parlait tout à l'heure de Neymar et Mbappé. Alors ça fait beaucoup de buzz, notamment sur les réseaux sociaux. Les deux joueurs sont arrivés au stade avec déguisés en mode série.
Pourquoi?
Casa des Papel. Halloween, je pense.
Halloween, ouais.
Je pense, je vois
Halloween.
Que ça comme explication.
Et Halloween,
vu qu'ils jouaient pas ce jour-là,
Halloween,
ils se sont dit,
tu te déguises en monstre, tu te déguises pas en ça.
Oh, il y en a qui se déguisent un peu en tout et n'importe quoi.
Bah, c'est pas le Mardi Gras. C'est Halloween, tu confonds Mardi Gras et Halloween.
Bah, ça fait un peu flipper, non, les masques?
Non,
comme ça, là. C'est des voleurs.
Halloween, c'est du déguisement de monstres, machin, ça n'a rien à voir. Ouais. Là, toi, tu me parles de Mardi Gras, toi.
Bah ouais, mais bon, il y en a certains
qui sont... C'est pas carnaval, Halloween.
Bah, je sais pas, t'expliqueras ça à Rafinha, parce que vu le déguisement qu'il a fait du côté de Munich, lui, c'est bien fait en télé aussi.
Ouais, il a fait quoi, lui?
T'as pas vu l'histoire, le buzz de fou? Il s'est déguisé en terroriste, entre guillemets. Donc, il s'est habillé en mode,
Ah oui, effectivement.
Ouais. Mec du Moyen-Orient, moustache, lunettes de soleil, avec un faux paquet piégé, tu vois.
Voilà, il est intelligent, lui.
Ouais, bah, il s'est bien fait démonter par le Bayern.
Et donc, là, pour ce soir, on ne sait pas, alors, pourquoi.
Moi, je suis sûr que c'est Halloween.
Ouais, je pense que c'est ça.
Je vois que ça comme explication, d'ailleurs.
Il y a beaucoup de joueurs qui font ça, notamment en NBA, quand ils arrivent au stade où ils sont déguisés en. Mais ça a changé, hein, Daniel. C'est plus forcément les monstres, tu te déguises en
ce moment. Bah, je sais pas, pour moi, Halloween, c'est pas
d'autres pareils
que carnaval, quoi.
Apparemment, tu te déguises en ce que tu veux, me dit Jérôme.
À moins qu'ils avaient à l'esprit de braquer le LOSC ce soir.
Bah, voilà, les faits que tu sois des braqueurs, il y a le côté un peu peur, machin, je pense, je vois que ça. Bah, je vois pas d'autre explication à part Halloween.
C'est Lille, alors, qui aurait pu braquer.
Bah, voilà. Ouais. En attendant, ceux qui sont déguisés. Ouais, et ceux qui ont gagné, ceux qui ont marqué ce soir.
Tiens, donc, on va accueillir Frédéric. Ils ont choisi le déguisement de cette série pour adolescents boutonneux, la maison de papier.
Alors, je t'avoue, moi, j'adore les séries, celle-là, j'ai pas accroché.
Ah, bah, c'est normal, c'est pour ados.
Bah, je sais pas, il y en a d'autres pour ados que je regarde, mais ça.
Ou pour Kidulte.
Kidulte? Ouais, je sais pas.
Kidulte, c'est.
Regarde, toi,
ceux qui sont grands, mais.
Gros succès auprès des footballeurs, d'ailleurs, à Casa des Papel.
Moi, j'ai regardé.
C'est des grands ados, les gens.
J'ai accroché sur Tokyo, moi.
T'as quoi?
Ah ouais, Arlo, sur Tokyo. Oui, d'accord, j'ai compris. Juste la nana.
Ah ouais, je connais pas.
L'héroïne.
Ouais. Narcos, non, tout ça, non?
Narcos, tout ça, non?
Non, pas
tu
trop.
Tu regardes pas ça, toi? Série historique, ça.
J'ai un peu arrêté les séries de baston.
The Crown, vous avez regardé ou pas?
Non, j'ai pas vu ça.
Excellente série historique sur la vie d'Elisabeth II, vraiment. Ça, c'est excellent. Elle a été récompensée, d'ailleurs. Très, très. Ça, j'ai pas vu non plus.
Avec The Rock, Dwayne Johnson.
D'accord. On va accueillir Frédéric, supporter du LOS, qui nous a appelé au 32-16. Salut Frédéric.
Ouais, bonsoir messieurs.
Oh là là, Fredo.
Moi je parle plus de séries ici, depuis que je vous en ai conseillé, vous les regardez même pas là.
C'est quoi que t'as conseillé récemment?
Bah Pierre Ducrot, il m'avait dit gnie gnie gnie.
C'est quoi?
Il a pas Billions. Ah, ouais, en plus on va parler des Football Leagues, du grand capital, de l'argent.
Ou mécanisme. Série brésilienne sur les affaires de corruption là-bas aussi, excellente également, inspirée de faits réels. Frédéric
avec Lula, un acteur,
ouais, en vrai. Exact. Non, mais c'est pas lui, mais c'est plus les potes à Bolsonaro. Mais bref. Frédéric.
Ouais.
Bon.
Salut.
Bon, Fred, t'es comment là?
Écoute, ce soir, je suis un peu partagé. Quand j'ai vu la compo d'équipe, je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu plus de coups devant, avec la vitesse des attaquants. Et je pensais qu'il y ait plus de duels en 1 contre 1, donc qu'on pouvait tirer notre épingle du jeu. Malheureusement, ça n'a pas été trop le cas. Mais donc, un peu de frustration par rapport à ça. Mais je dirais que j'ai quand même un peu de fierté ce soir. Parce que même si Lille, la victoire parisienne est méritée, je trouve que Lille a montré que défensivement ils étaient costauds, qu'ils avaient un gardien. Au milieu de terrain, je suis pas forcément d'accord avec Daniel. Je trouve que Thiago Mendes et Seca ont été au rendez-vous.
Au rendez-vous parce qu'ils étaient là, ouais. Mais après.
Non, mais Daniel, s'il te plaît. J'accepte. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'accepte ton propos. Si tu pouvais accepter le propos des auditeurs, ce serait sympa.
Je peux difficilement l'accepter parce que Mendes, il a pas vu le ballon.
Quand je t'entends dire que le 2-1, c'est comme un
5-0. Bah oui, c'est la même chose.
Ah non, c'est la même chose.
Bah le contenu est exactement le même. Lille met pas le nez dehors et Paris est tout le temps dans la surface à avoir mis l'occasion. Oui, si jamais ils trouvent la brèche tout de suite, ça fait 3-4 à l'arrivée.
Mais tu disais tout à l'heure que finalement ils défendaient plutôt pas mal.
Ils n'ont fait que défendre.
Ils ont plutôt pas mal défendu.
D'accord. Oui, ils ont défendu parce que le PSG a également manqué un peu de... C'est un contenu 4-0, c'est la même chose.
Quand tu viens et que finalement tu viens pour défendre parce que ça a été le cas ce soir et que t'en prends 2 au lieu de 5, c'est quand même pas la même chose, tu vois. T'as pas la même perception, tu perds 2-1 et 5-0. Ça change que tu...
Quoi?
Bah même dans ton
t'as rien fait.
Dans l'état d'esprit, d'accord. Bah t'as défendu. Donc bah, si tu perds 2-1, t'as mieux défendu que si tu perds 5-0.
Bah, je vois pas l'intérêt d'un point de vue du foot, excuse-moi.
Bah non, c'est pas un point de vue de foot,
je vois pas l'intérêt.
Si tu viens pour défendre.
Mais pour moi, c'est juste du score.
C'est
du score.
Bah, et quand tu viens pour défendre, c'est juste du score. Si tu perds 5-0, c'est pas pareil que si tu perds 2-1.
Tu viens pour défendre, tu mets pas le nez dehors, tu fais rien. Tout ce que t'as fait depuis le début de la saison,
tu dis toi-même tu viens pour défendre.
C'est le contraire de ce que t'as proposé.
Tu viens pour défendre, Daniel.
Tu peux pas me dire que c'est, tu vas bientôt, tu vas me dire que Lille a fait un bon match et que c'est une réussite.
Je suis en train de te dire que si tu viens pour défendre, fais pas semblant de pas comprendre. Tu fais, si
déjà venir pour défendre, pour moi, ça veut rien dire. Tu viens au foot, tu viens jouer au foot pour défendre, reste chez toi.
Daniel,
déjà.
Si tu viens pour défendre et que tu perds 2-1, c'est pas pareil que si tu perds 5-0.
Mais je ne vois pas la différence, pardonne-moi.
Bah bon d'accord, bah écoute alors.
Il y a un seul truc, c'est toujours la même histoire, il y a un seul truc qui valide un schéma ultra défensif, c'est si t'as ramené le 0-0.
Voilà, voilà. Parce qu'il n'y a pas été
et encore mieux si t'as fait ton braquage 1-0.
D'un point de vue
c'est
comptable, tout. Ça te
après,
fait 0
points,
d'accord.
Deux, mais... Que t'en prennes 2, 3, 4, mais qu'est-ce que ça change quoi?
Bah je pense que ça change beaucoup de choses, y compris dans l'état d'esprit des mecs.
Bah je crois pas, non.
Bon.
Bah ça veut dire que si t'es le joueur et que ça change quelque chose là-dessus, bah ça veut dire que t'es loin du compte dans ta compétence.
Je crois que je comprends un peu ce que tu veux dire, c'est que dans l'ambiance générale du match, c'est-à-dire l'ambiance plutôt défensive du côté du LOSC, je trouve que pareil, Sheka et Mendes ont fait un gros travail dans le sens où ils ont vraiment fermé l'axe de la défense pour bloquer Mbappé et avec Font et Soumaoro, ils ont vraiment été très performants dans le sens où ils ont bloqué tous les espaces dans l'axe du terrain et ils n'ont jamais pu trouver les solutions jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un peu plus de verticalité.
Mais c'est vrai qu'ils en ont pris deux au lieu de quatre. Génial!
Mais Frédéric, ils se sont rarement projetés vers l'avant.
Non, mais on est complètement d'accord, Ludo.
Ouais, je sais.
Je suis pas en train de te dire que Lille a fait un grand match.
Mais sur le plan défensif, je vois ce que tu veux dire.
Je suis pas en train de dire ça. Mais il y a un moment donné, c'est Paris au parc. On est le LOSC. Okay, on est le LOSC avec une saison galère l'année dernière. D'accord ? On fait un très bon début de saison. On joue Paris au Parc. Donc effectivement, effectivement, on savait que ça allait être difficile.
Mais Frédéric, justement, moi, c'est l'inverse de ton propos.
Ouais, là, je vais être d'accord avec Ludo.
T'as frôlé la correctionnelle la saison dernière. T'es deuxième, c'était pas prévu non plus. Qu'est-ce que t'as à perdre ce soir à jouer?
C'est surtout que t'es deuxième sans jouer comme ça jusque là. En plus,
Ludo.
Ça veut dire que tu fais tout l'inverse
de ce que t'as fait jusque là,
de tout ce que t'as bossé depuis le début de la saison.
Je t'écoute.
Et ça, on va me dire que c'est un bon plan.
Ok, génial.
Vas-y, génial.
Je te pose une question. Lille ce soir joue comme le début de saison, d'accord? En se livrant,
ils n'ont jamais fait ça depuis le début de la saison.
Non, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. D'accord. Si Lille avait joué comme le début de saison, en se livrant, en étant beaucoup plus haut sur le terrain, est-ce que tu penses qu'on aurait pris que deux buts ce soir?
Mais tu sais pas, tu peux pas le savoir.
Donc la satisfaction, c'est d'en prendre que deux. Bravo, ça c'est du foot, ça. Bravo, mon vieux. Vraiment, c'est extraordinaire. N'en avoir pris que deux au lieu de quatre, non, mais c'est vraiment génial.
Tu fais le malin parce que t'es supporter parisien et que ce soir vous avez gagné 2-1. Je pense qu'on va se rappeler mardi et on va voir si tu feras toujours le malin.
Mais je pense que ton propos est d'une bêtise sans fin. Parce que si,
laisse-moi
te répondre, s'il te plaît. Laisse-moi répondre à ton énormité et à ta bêtise. Est-ce que tu m'as entendu après le match PSG-Naples, PSG-Liverpool, PSG?
Je ne t'ai pas insulté.
Alors moi je te dis que ton propos est insultant. Moi, je te dis, ton propos,
attends,
mais si, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu ne te rends pas compte que ton propos est insultant puisque tu me fais tenir des propos qui sont ceux d'un supporter. Donc, je te réponds que ton propos est insultant et je t'explique pourquoi. Parce que, en plus, tu mens, parce que ça voudrait dire que je ne suis pas capable de critiquer le jeu des Parisiens, ce qu'il me semble avoir fait plus que énormément de gens après le match contre Liverpool et contre Naples. Donc, ton propos est non seulement insultant, mais il est infamant. Il est infamant, ton propos.
Bon, enfin, les gars, on va pas utiliser non plus des mots.
Mais si.
Personne s'est insulté, les gars, ça va.
Non. Moi, je n'accepte pas ça.
Non, mais la guerre, on parle de foot, on a le droit de pas être d'accord, ça va.
Mais il est pas d'accord, mais il n'a pas le droit.
Il t'a pas insulté.
Il n'a pas le droit de dire, ouais, de toute façon, toi, tu dis ça parce que t'es supporter du PSG.
Il t'a pas insulté.
Parce que il réduit mon propos à celui d'un supporter.
Vas-y, réponds, Frédéric.
Non, ça n'est pas vrai.
Les gars, vous allez pas vous embrouiller à l'antenne, ça sert à rien. Mais vas-y, Frédéric.
Si mon propos a été mal interprété, je m'en excuse.
Voilà.
Je suis pas une personne qui insulte, d'accord.
Mais c'est très bien, si tu comprends, tout va bien.
On est là pour échanger. On est d'accord, je pense. Ce soir, j'aurais souhaité que mon équipe effectivement aille plus de l'avant. C'est vrai. Et qu'on prenne au minimum un point. Une défaite reste une défaite. Maintenant, ce soir, je pense que tout n'est pas à jeter.
Ah, mais bien sûr que non, mais qui t'a dit ça? On est d'accord là-dessus?
Non, mais j'ai jamais dit que t'avais dit le contraire. Je te donne mon point de vue du match.
Ah, okay.
Tout n'est pas à jeter. Défensivement, on a été costaud. Fonté a montré que c'était un joueur de très grande qualité. Au milieu de terrain aussi,
un jour, faudrait qu'on parle de ce qu'il a apporté dans le vestiaire, ce mec.
Frédéric, tu sais ce qui est rassurant aussi, c'est que depuis le début de saison, on ne fait que vanter les louanges des trois de devant.
Exactement.
Et là, ce soir, on s'aperçoit que finalement,
on a aussi beaucoup dit que Fonté avait été un joueur extraordinaire à Lille.
Saison extraordinaire. Saute aux yeux, c'est la complicité des trois, c'est la capacité des trois.
Tiens les gars, on va écouter Christophe Galtier en direct en conférence de presse, messieurs, le supporter, l'entraîneur du LOSC. Il va arriver dans quelques instants, Christophe Galtier. Il est là. Ah non, c'est pas Christophe Galtier.
Ah, c'est Roland Courbis.
Ah, il arrive, Christophe Galtier. Non. Il est pas là. Bon.
Mais pourquoi on l'entend pas?
Parce qu'on a l'image et on n'a pas le son pour l'instant. Alors, un petit problème de liaison avec le parc. Faut dire que c'est loin, le parc, les mecs. Frédéric, t'es toujours là?
Ouais, je suis toujours là.
Je finis mon propos. Je te disais donc que c'était plutôt rassurant de voir que cette équipe, elle fonctionne parce qu'elle a aussi un groupe homogène et que on le voit. Tu me dis la défense centrale a été très bonne ce soir. T'as aussi deux latéraux qui sont de très bons joueurs. Or ce soir, le gardien était très bon aussi.
C'est
un très bon gardien.
Non, alors si tu veux le positif et tu sors de ce qui s'est passé sur le terrain. Du choix de Galtier, de ce qui s'est passé sur le terrain. Ce qui est rassurant globalement, c'est de voir que oui, t'as un bon gardien, oui, t'as un super défenseur qui amène du calme, de la stabilité. Oui, on le savait, même si ce soir, ils souffrent énormément, ils sont étouffés, mais les deux du milieu sont bons. Après, ceux de devant, ce soir, on les voit pas du tout, mais a priori, contre les autres équipes de Ligue 1, ils continueront à être bons. Donc, le point positif du soir, c'est de te dire, c'est pour ça, élimine que je dis que le en prendre 2 ou en prendre 4, c'est la même chose, et que le contenu pour moi est le même qu'un 4-0, ça n'aurait pas changé. Non, non, mais moi, c'est pour ça que je ne m'arrête pas que au score. Ça ne m'aurait pas trop modifié mon avis, qui est de considérer que Lille peut et à mon avis va faire une belle saison.
C'est jusqu'au bout. Christophe Galtier, pas de raison qu'il on va l'écouter 7, en maintenant. Direct en conférence de presse, l'entraîneur du LOSC.
Vous jouez devant la meilleure équipe de France, nettement.
Allez, Christophe Galtier.
Qu'est-ce que vous en tirez ?
Il y a beaucoup, beaucoup trop d'écart. Beaucoup, beaucoup trop d'écart. Pour espérer, je le dis souvent, pour espérer faire un résultat contre Paris, il faut être au top dans tous les secteurs et il faut que Paris soit un peu moins bien. Ce soir, eux, ils ont été au top dans tous les secteurs et donc automatiquement, nous, on n'a pas existé dans ce que l'on sait faire d'habitude.
Vous ne pouvez pas tirer d'enseignement positif. La défense, par exemple.
Oui, on a bien défendu. Je crois que Mike a eu un face-à-face et puis après, il a pris les deux buts. On a bien défendu, mais... Voilà, on a bien défendu, on s'est appliqué à bien défendre. Mais c'est pas suffisant pour battre ou faire un résultat contre Paris. Mais c'est pas un reproche que je fais à mes jeunes joueurs, c'est simplement que Paris nous a empêchés pendant 94 minutes de développer du jeu, quoi.
Voilà, il est un peu d'accord avec nous, hein, finalement.
C'est très juste, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Ouais. Vraiment, c'est très, très juste.
Voilà, ça n'a pas suffi. Ils ont bien défendu, mais c'était pas suffisant.
Ce qui me déplaît un peu, c'est le côté scientifique de la chose. C'est-à-dire qu'il faut que le PSG soit, le PSG est à 100% et nous, faudrait qu'on...
Bah, il y a un peu de ça aussi. Non, mais c'est dur.
Nico, le PSG qui est à 100%.
Tu parles des intentions, toi, c'est ça?
Bah, oui, si le PSG est à 100%, il faut essayer de le diminuer. Or, ce soir, t'as pas essayé.
Ouais, mais est-ce qu'en Ligue 1, il y a des équipes qui peuvent faire baisser le...
C'est compliqué.
En fait, ce qui peut se passer, c'est si le PSG se fait baisser tout seul. Si tu le prends, j'en sais rien, moi, peut-être pas maintenant, mais trois jours après un match au chaud en Ligue des Champions, où il va être un petit peu démobilisé, et encore cette année, on l'a pas vu. J'ai plutôt l'impression qu'autour du PSG, le niveau s'est abaissé en Ligue 1, et qu'eux, ils prennent les matchs tous au sérieux. Donc ça va rendre les choses encore plus compliquées.
Tu connais la capacité technique de ces joueurs. Tu sais qu'à un moment donné, à être acculé, ils vont trouver les solutions d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Il y a des équipes qui l'ont tenté la saison dernière. Je pense à Guingamp, je pense à une autre équipe où ils avaient décidé, bon, perdu pour perdu, on joue haut, on essaye de les bloquer.
Même plus fort que l'année dernière.
On essaye de les bloquer dans leur partie de terrain. Qu'est-ce que tu risques à faire ça ?
Allez, on y va les gars. Frédéric, merci d'avoir été avec nous.
Ouais, bonne soirée.
Merci Frédéric et Fred, et comme toi tu t'es excusé aussi, moi aussi tu le sais, je suis parfois un peu virulent, mais
tout
termine bien. Voilà.
Tout se termine bien.
Mais qu'est-ce qui t'arrive Daniel ? T'es devenu sympa.
Non, mais sa réaction était chouette parce qu'il avait vraiment envie de parler.
C'est un moment historique là, tout à l'heure tu sais quoi, il m'a vu, il m'a souri et tout. Tout à l'heure en antenne, il m'a vu, il a souri, il était presque content de me voir le mec. Incroyable, incroyable. Daniel ? Ouais, faut pas déconner non plus.
Allez,
on revient dans quelques instants avec Ludo Bragnac.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Ludovico Bragnac, on vous rappelle, victoire du Paris Saint-Germain 2-1 face au LOSC ce soir. Première affiche de la 12e journée de Ligue 1. Le PSG qui prend 11 points d'avance sur le LOSC, 11 points d'avance sur son dauphin. Il y a le quart de finale du Rolex Masters de Paris qui se joue à l'Accor Hotel Arena. Et Eric Salio est là-bas. Putain, et les naming, Eric, ça rallonge tout là. Les noms des compètes, les noms des stades, des trucs là. Wow.
Tu l'as des rares journalistes à respecter ça. Bravo.
Parce moi, je sais pas si tu peux dire bravo du reste. Hein, mais...
T'aurais dit le quart de finale
c'est
à Bercy.
Voilà. Mais pareil, il faut plus le dire. Donc.
Non, mais bon. C'est un débat sans fin. En tout cas, ça fait 6-4-4-3 avec un break d'avance pour Roger Federer qui est en contrôle, en maîtrise, c'est peut-être un grand terme, mais il est devant, il fait juste ce qu'il faut pour rester devant, mais c'est pas le match de l'année, hein, je vous le confirme. Il y a beaucoup de...
Eric, excuse-moi, je te coupe, on va aller écouter Marco Verratti qui est en direct en zone mixte, en ce moment même.
Vous devez jouer avec de la patience, ne pas perdre beaucoup de ballons parce qu'on savait que c'était dangereux et je pense que c'était un match très sérieux.
On a joué la première contre la deuxième équipe, c'était un match, je pense aussi, joli à regarder avec deux équipes qui sont jouées au football. Et dans la deuxième étape, on a, On a fait mieux, je pense aussi que Lille il avait beaucoup fatigué dans la première mi-temps, ils ont beaucoup couru, ils ont fermé tous les espaces, et c'est toujours comme ça, dans la deuxième mi-temps c'est toujours un peu plus facile, surtout quand tu débloques le match. Et après on a un peu souffert les dernières 10 minutes aussi, un peu pour notre faute, on s'est un peu relaxé, et ça ne doit pas passer, parce que des fois le football il change tout d'une façon incroyable, et il faut toujours être sérieux jusqu'à la dernière minute.
Marc, continue sur ton rythme, jusqu'à quand
même. J'ai rien compris.
Est-ce que c'était important ce record de 12 victoires?
Mais bien sûr.
Battu, vous avez battu maintenant le record de Tottenham, est-ce que vous en avez parlé en amont?
Oui, on avait parlé avant le match, on savait qu'on pouvait rentrer dans l'histoire du football. Ça c'est une chose jolie, parce que c'est pas facile de gagner 12 matchs consécutifs dans le championnat, surtout quand on joue contre cette équipe, ils donnent toujours le 100% contre nous, ils essaient toujours de nous faire tomber. Ça c'est, je pense que c'est une chose aussi qui a un grand caractère, qu'on fait les matchs très sérieux, et cette année je pense que On a mérité de battre cette règle, donc on va continuer parce que c'est important, c'est quelque chose qui restera à l'histoire. Et on joue au football aussi pour ça, pour rejoindre des gros objectifs.
Est-ce que tu es superstitieux?
Superstitieux?
Oui. Est-ce que tu es superstitieux?
Un peu.
Parce que si vous gagnez le prochain match, ça fera 13 victoires.
Que... Dans deux matchs, c'est à 14. Non, oui, c'est... Oui, après, le football, je ne suis pas très superstitieux, plus dans la vie en général, mais... Je vais gagner aussi les 13e
matchs. Marco, il y a des matchs très sérieux en championnat, mais en Ligue des Champions, c'est compliqué depuis le début de la saison. Et là, il y a Naples mardi. Comment faire pour passer cette obstacle maintenant?
Je pense que ce n'était pas seulement compliqué pour nous. C'est un groupe très compliqué. On l'a vu que Liverpool a perdu à Naples. C'est un match très difficile parce que c'est un groupe très difficile parce qu'on a trois grandes équipes. Je pense que c'est la première fois que... On a ça ici à Paris, c'est pour ça qu'il faut faire un grand match, il faut faire un match très sérieux, il faut un match où on doit être très organisé, parce qu'une équipe italienne c'est dur à jouer contre, parce que c'est vraiment très organisé, et on sait qu'on peut le faire. Je pense qu'avec les joueurs qu'on a, si on arrive à trouver cette structure, cette organisation que jour en jour il va mieux, je pense qu'on a la possibilité de faire un bon match et de ramener à la maison trois points qui seront vraiment très importants pour nous. Oui, c'était un peu dur. J'ai passé un peu de trois jours difficiles. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur. Je pense que ce sont des choses qui ne doivent pas arriver, mais qui peuvent passer à tout le monde. Le footballeur pas. Et je me suis excusé déjà le matin quand je suis arrivé ici, avec les coachs, avec le club. J'avais dit à mes coéquipiers qu'il m'était passé ça. Et je m'excuse, j'espère qu'il me va servir d'expérience. J'ai des enfants, je pouvais dire à des enfants comme ça qu'il m'arrivait des choses qu'il ne faut pas les faire eux. Et je m'excuse aussi avec les supporters. Je sais que j'ai une image à tenir, que c'est important. Mais la chose sûre, que dans le terrain, je donne toujours le 100%. Et là, je donnerai encore plus parce que je sais que j'ai quelque chose à me faire pardonner.
Pour revenir au sportif, si...
Voilà, la réaction de Marco Verratti. Juste avant de revenir là-dessus, et notamment sur le fait qu'il a été interpellé lors d'un contrôle routier, un petit mot de Thomas Tuchel qui est en direct en ce moment en conférence de presse.
Il a pris la responsabilité à Marseille, il a fait un but et c'était la décision pour Julien, mais aujourd'hui, mais pas contre Adrien. Et nous avons décidé de jouer avec un double 6 aujourd'hui pour contrôler les contre-attaques avec le 5 joueurs. Parce que c'était nécessaire, à mon avis, parce que Lille fait des contre-attaques toujours avec 4 joueurs. Et oui, maintenant, c'était une décision très, très difficile. Mais c'est mon aufgabe. C'est ma tâche de faire cette décision, et Julien, il a mérité de rester avec l'équipe. Et c'était dur aujourd'hui pour Atri.
Voilà, Thomas Tuchel en direct en conférence de presse. On va revenir sur les propos de Marco Verratti.
Oui, la question a mis du temps à arriver, est quand même arrivée.
Ouais, parce qu'à un moment, ils sont un peu mélangés les pinceaux, ils ont pu parler en même temps, la question était nous.
Ce qui lui est arrivé cette semaine.
Dans la nuit du 30 au 31 octobre, alors il a été interpellé lors d'un contrôle routier du terrain italien. Son taux d'alcoolémie était supérieur à la limite autorisée. Alors il disposait d'un permis probatoire. Il pourrait être sanctionné par une longue suspension de permis. Le club a réagi d'ailleurs aujourd'hui. Je lis le communiqué de presse du Paris Saint-Germain. Dès le lendemain, donc du 30 au 31 octobre, notre joueur a tenu à se présenter tenu à présenter spontanément ses excuses à l'entraîneur et à la direction du Paris Saint-Germain. En vertu des règles applicables au contrat de tous nos joueurs, Marco Verratti se verra retirer une partie de sa prime d'éthique mensuelle. Voilà, ça a été une partie du communiqué du Paris Saint-Germain. Tu voulais réagir à ça, Daniel? Il s'est excusé, Marco Verratti, on vient de l'entendre.
Il s'excuse, ok. C'est un bon garçon, Verratti. Il est là, quand il est sur le terrain, il dit « je donne tout ». Très bien. Ok. Je vais essayer de pas faire celui qui lui tombe dessus comme depuis, j'allais dire des semaines, plutôt des mois, voire des années maintenant, qu'il est au PSG. Le problème de Verratti, c'est que derrière cette image, et oui, c'est un bon garçon, on a l'impression qu'il est toujours enfant, c'est plus un enfant. Son hygiène de vie, on sait qu'elle est pas bonne depuis très longtemps maintenant. Alors on va me dire, ça le regarde. Évidemment que ça le regarde. Et évidemment qu'il y a eu dans l'histoire plein de joueurs de foot qui ont eu des hygiènes de vie moins bonnes et tout. Mais le problème, c'est que le PSG a besoin de lui pour performer. Et que trop souvent, il a été blessé dans le passé. Qu'aujourd'hui, le lien à faire entre son hygiène de vie et les éventuelles blessures qu'il a eues, il n'est pas dingue à faire. Le PSG va aborder une période compliquée en match. Match ce soir, bon, ça passe contre Lille, puis Naples, puis machin. Et le mec, à 3h du mat, il fait le con dehors, il se fait choper, il est en permis probatoire. Ça veut dire qu'il a déjà eu une galère avant, de ce côté-là. Tu vois, à un moment, ok, t'es pas sérieux, gars. T'es pas sérieux. C'est ça son problème. Après, sur le terrain, machin. Après, tu remontes le temps. Le Real, l'année dernière, le match retour, il prend un carton rouge. Déjà que le PSG était pas bien embarqué, il les plante en faisant ça. Dans les gros matchs, on va dire européens, c'est rare qu'il soit au top, alors qu'il est à un positionnement central et que on attend beaucoup de lui parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, parce que c'est un des plus forts techniquement, que c'est lui qui doit donner le ton au milieu. Donc le compte n'y est pas par rapport à Verratti, par rapport aux exigences, à ce qu'on est en droit d'attendre de lui, de sa progression depuis des années. Le compte n'y est pas. C'est décevant. Alors après, il vient devant les journalistes et il dit, excusez-moi, ça arrive à tout le monde. J'ai une famille. Mais oui, évidemment, t'as pas envie de lui taper dessus. Il arrive avec sa bouille d'enfant, là. Tu dis, ouais, ok, bon, ça va, mon grand, t'as envie de le prendre par l'épaule. Allez, on fait un câlin. Allez, va au lit maintenant. Mais le problème, c'est que le PSG, si Paris doit grandir, les joueurs doivent pas être comme ça, quoi.
Ludo,
c'est ça le problème.
Ton avis là-dessus?
J'ai été joueur, donc je déteste me mettre dans la peau de celui qui moralise, d'autant que voilà, moi j'avais tendance à juger les mecs sur leurs prestations le week-end, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux à côté, à partir du moment où t'es irréprochable et tu fais ce que t'as à faire sur le carré vert. Après c'est ton problème. Le problème de Marco Verratti, c'est que le timing est très mauvais. C'est quelqu'un qui c'est pas la première fois.
Oui, il y a peut-être
le,
ça aussi.
Le timing, bon. Si t'es premier dans ton groupe de Ligue des Champions, t'as tes 11 points d'avance en championnat. Allez.
Bah oui.
Voilà, passons. Là, t'as un match.
Calcule un peu ultra, quand tu sors ou pas.
Ultra capital contre Naples et tu souffres aussi un peu de la comparaison. Cette semaine, t'as une interview de Matuidi qui parle de Cristiano Ronaldo et de ses matchs tous les 3 jours.
Bien
et puis,
sûr,
il revient le lendemain matin, le mec, il est encore à la salle de muscu parce qu'il dit qu'il est pas assez performant.
Bien sûr.
Le haut niveau, il y a pas, c'est des petits détails.
Et aujourd'hui, t'as plus la légende des mecs qui clopent, qui sortent et tout. Le football est devenu beaucoup plus exigeant.
Quand tu joues tous les 3 jours à ce niveau-là, les petits détails sont ultra importants et l'entraînement invisible, il est aussi important que l'entraînement.
Après, il y a un autre phénomène aussi. Le fait que maintenant il y a les réseaux sociaux, etc., ça amplifie aussi finalement ce genre de sortie. Peut-être qu'à l'époque, ça existait aussi et il y a pas si longtemps que ça et ça se savait
c'est
fini au tennis. On va juste voir Eric Salio vite fait. C'est terminé entre Nishikori et Roger Federer. Eric,
côté hygiène de vie, Federer, lui, il y a aucun souci. À 37 ans, il est nickel. Il est en demi-finale du Mastersville de Paris-Bercy, 6-4 6-4, tranquillou face à Kei Nishikori. Et donc demain, le grand match aux environs de 16h30, pas avant 16h30, 47e match entre Federer et Djokovic. En conférence de presse, il y a confirmé qu'il était un peu fiévreux, mais demain ça devrait quand même procurer des étincelles, ce match.
Merci beaucoup Eric, bonne nuit à toi et à demain alors.
À demain.
Salut Eric.
Donc, que tu le saches ou pas, ok, peut-être on sait plus maintenant, enfin bon, j'ai pas attendu que ça sorte sur les réseaux sociaux ou que ça sorte en info ce truc-là, ça fait des années que je le dis, parce que tout le monde le sait, qu'il sort beaucoup et tout ça. Le problème c'est que sur la fameuse légende des mecs qui faisaient les cons, qui buvaient et tout, Mais c'est pas des mecs qui ont fait 10 ans de carrière, c'est pas des mecs qui jouaient tous les 3 jours, c'était un autre football.
L'intensité
était pas la même. Faut arrêter avec ce vieux mythe. Oui, ça fait des belles histoires qu'on lit dans des bouquins ou dans les vieux canards d'il y a 20 ans et tout. Mais c'est le problème, c'est que ça n'est plus comme ça aujourd'hui. T'as pas de mecs qui réussissent en étant comme ça avec la clope, l'alcool et tout. Ça existe plus. Et le PSG aujourd'hui peut pas trop se permettre ça. Alors moi, je lui souhaite d'être très bon mardi. Qu'il le soit, peut-être que justement, sachant ce qui s'est passé, ça va provoquer le booster, chez lui un surplus. Mais le problème, c'est que c'est tout au long de la saison et que l'année dernière, ok, en poule, ça va. Après, arrive le 8e contre le Real et le Real, t'es pas bon et tu prends un carton rouge bête parce que t'arrives pas à te calmer. Et il a tout le temps une excuse, il a tout le temps un truc et c'est tout le temps. On a toujours l'impression qu'il a 18 ans, que c'est un môme. Il l'a plus 18 ans.
Mais si on a deux minutes pour faire l'évaluation de ce Lille, Paris Saint-Germain-Lille, même. Abdel est avec nous, supporter du PSG. Salut Abdel.
Salut les gars.
Salut Abdel.
Alors Abdel, on va se faire les vals. J'ai déjà mordu rien, Abdel. Qu'est-ce qui t'arrive?
Je rigole. Franchement.
Qu'est-ce qui te fait marrer?
On s'attendait à une confrontation choc. On s'est amusé les gars. Moi j'étais au stade. J'étais là-bas au Parc des Princes. C'était Paris contre une défense. Quoi. Il n'y avait personne en face. Il n'y avait rien du tout. Et je suis déçu ce soir. C'est pourquoi? Parce que Gigi l'a attrapé froid.
N'importe quoi, il demande rien.
Peut-être que mardi, il sera même pas là.
Abdel, ton cador.
Il a failli attraper froid, il a failli prendre un gros coup de chaud sur sa relance.
Messieurs, votre cador de ce PSG Lille, on rappelle.
Le cador, mais attendez, c'est le cador du PSG, le cador du football.
Vas-y.
C'est Neymar. Neymar, c'est un génie. Mais attendez, le stade, il chantait son nom. Il est trop beau quand il joue. Il est extraordinaire.
Ok pour Neymar, on cadre les gars. Ludo, Daniel.
Ah, moi, c'est ouais,
Neymar, ça se tient.
Mbappé.
Mbappé, il met un beau but. Il débloque la situation quand même. Mais la passe de Neymar, elle est magnifique.
Les deux ont été très bons.
Mais bon.
L'action vient de Neymar, mais Neymar, il était partout.
Alors rien à voir, Abdel. Le pied carré de ce PSG Lille.
Il vient. Il a été refourgué par le Bayern. Hein? Et ça, je me demande comment on a fait, parce que franchement, je me demande.
C'est qui, Jean Bernard?
Ouais.
Bah oui.
Soir, tu peux le trouver à Lille, le pauvre Bamba. Dès qu'il a vu un ballon, il savait pas quoi en faire, quand même.
Moi, je parle que de Paris, parce que en face.
Ah non, on parle des deux, Abdel.
Oui, oui, mais bon. En face, ils étaient tous nuls pour moi. Ils étaient tous faibles.
Ludo, tu mettrais qui, toi, Pierre Carré?
Malheureusement pour lui, oui. C'est criant, ça se voit trop.
Tous faibles, quoi.
Ça se voit trop que c'est Bernat.
Sur le match de soir?
Ouais, même sur le match de soir. Okay.
Le taulier de ce PSG Lille?
C'est moi qui réponds en premier?
Vas-y, si tu veux, Abdel, ouais.
Bon, comme je disais en off, là, le taulier, moi, je dis que c'est... le taulier, c'est... C'est Thiago Silva. Peut-être qu'à la télé, on voyait la caméra.
Marquinhos a été très bien aussi.
Ouais,
Marquinhos,
ouais. Il me disait Marquinhos aussi, mais un taulier, c'est quoi? C'est celui qui organise, qui donne des ordres, qui replace. Et la caméra, elle n'était pas sur Thiago Silva, mais quand la caméra n'est pas sur lui, vous voyez les consignes qu'il donne à toute la défense. Il replace tout le monde. C'est Thiago Silva de loin.
Marquinhos voilà. Ou Thiago Silva, les gars?
Moi, je mettrais Marquinhos. Après,
Daniel,
l'auditeur est roi.
Marquinhos. Hein.
Mais pourquoi Marquinhos?
J'ajouterais Fonte. Parce que Fonte, il a vraiment une allure de taulier ce soir.
Marquinhos, parce que
c'est lui. Mettre Fonte, ça m'arrange.
Son intelligence de jeu te permet de couper toutes les contre-attaques du LOSC dans l'œuf.
Et le Casper de ce PSG Lille. Il sera forcément côté Lillois, non? Les attaquants, ils ont eu du mal ce soir. Hein. On pourrait même mettre la bip, les trois.
On
a tellement parlé.
Je dirais Iconé qu'on a.
Bamba, Iconé, Pépé, on a du mal à exister quand même.
Hein. Mais Iconé plus que les deux autres.
Ouais.
Moi, Casper, je mets les trois.
Ouais, moi, je mettrais bien la bip aussi. On l'a tellement fait.
On les associe tous les trois.
Ouais, c'est vrai. On met la bip. Ouais. Allez, la bip.
Parce que avant le match, on nous a vendu les trois, donc pour moi, c'est les trois.
C'est vrai, Abdel. Ouais. On mettra donc Neymar en cador, en pied carré. On a dit Bernat, Antolier, Bafonte et Marquinhos. On va mettre les deux. Et puis la bip en Casper ce soir. Merci Abdel d'avoir été avec nous.
Merci à vous les gars.
Merci, bonne soirée Abdel, bonne soirée, à très bientôt. Dans quelques instants, Pierre Rondeau sera avec nous. On va revenir sur les révélations de Football League qui concernent le Paris Saint-Germain. Mediapart qui accuse le PSG d'avoir injecté plusieurs millions d'euros de façon frauduleuse en violant les règles du fair play financier. Explication dans quelques instants avec un économiste, Pierre Rondeau. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Ludovico Bragnac et de Daniel Riolo. On vous rappelle que ce soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 face au LOSC. Première affiche de la 12e journée de Ligue 1. Le PSG qui prend 11 points d'avance sur son dauphin qui est donc Lille. Le PSG qui enchaîne un 12e succès d'affilée en 12 journées. C'est un record dans le Big Five européen. Record absolu en Europe détenu par le Benfica. 72-73, 23 victoires après 23 journées pour le Benfica.
Ouais. C'est bien la première fois que tu dis un truc positif sur Benfica dans ta vie.
Je crois qu'ils ont perdu
Benfica
ce soir.
Benfica a perdu 3-1 ce soir.
Ils ont perdu contre Moreirense, incroyable. Ouais. T'es que rien ne va plus dans ce club.
Ah, t'es content.
Non.
Ah,
le Sporting a changé d'entraîneur, le Benfica, Rui Vitória n'est pas au top. Mais bon, accueillons d'abord Pierre Rondeau, spécialiste économie et football. Salut Pierre.
Salut à tous.
Comment ça va Pierre?
Ça va, un peu fatigué là.
Ah bah t'as dû avoir une belle journée mon garçon là.
J'ai pas arrêté.
Ah bah j'imagine.
La cravate c'est pour BFM,
ça te
c'est
plaît, pas pour moi. Quand il y a des histoires de blé, hein.
Ouais, tout de suite.
Ah, tout de suite on t'appelle.
Alors si t'es là, c'est parce qu'il y a eu de nouvelles révélations signées Football Leaks. Alors Mediapart qui fait partie du réseau Football Leaks accuse le PSG d'avoir injecté plusieurs millions d'euros de façon frauduleuse en violant les règles du fair play financier. Le PSG aurait été couvert notamment par l'UEFA, alors par Platini et Infantino qui étaient présidents de l'UEFA.
Ouais, mais là attention sur la sémantique frauduleuse, je suis pas tellement d'accord.
Ah, c'est eux qui l'écrivent. Hein.
Oui, mais justement, c'est Mediapart qui l'écrit. Là, concrètement, si on parle en termes vraiment de droit, hein, il y a eu un accord entre l'UEFA et le Paris Saint-Germain. Donc concrètement, il n'y a pas de fraude. Après, si on met en avant le fait que les contrats aient été surévalués et ne correspondent pas à la valeur marchande réelle, oui, on peut en discuter. Mais concrètement, il n'y a pas eu de fraude. Dès lors qu'il y a eu une entente, des accords qui ont été passés entre l'UEFA et le Paris Saint-Germain. Après, on peut aussi revenir sur le fait qu'il y a eu tractation politique, il y a eu magouille politique.
Alors, ça concerne les contrats de sponsoring. Hein,
voilà, alors si pour faire un résumé très bref, le Paris Saint-Germain, sous Fanion Qatari, a récupéré 1,3 milliard de contrats de sponsoring. Sur ces 1,3 milliard d'euros, il y a 88% sont des contrats passés avec des entreprises qatariennes. Et sur ces entreprises du Qatar, les contrats ont tous été surestimés, surévalués. Par exemple, le contrat avec l'Office du Tourisme Qatari a été signé à 215 millions d'euros, alors que selon différentes entreprises, on l'estimerait plus aux alentours de 2 millions d'euros.
Attends, Pierre, excuse-moi, reprenons comme ça, j'ai une question précise et comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'être.
Ouais.
Bon, j'ai lu l'article dans son entier, qui est méga long.
Ah oui, 21 pages.
Alors, ça reprend un peu, on va dire, toute l'histoire de l'oseille PSG depuis le début.
Ouais.
Donc, le nœud du problème, c'est ça tourne autour du contrat de sponsoring et notamment il y a énormément de pages sur le QTA, sur ce contrat-là. Il avait
Qatar Tourisme Authority.
Il était l'office du tourisme Qatar.
Il était surgonflé au départ. Il a été retoqué plusieurs fois. Le PSG a été sanctionné deux fois par le fair play financier. Il a été ensuite baissé le niveau de ce contrat. Qu'est-ce qu'il y a, alors après, il y a, parenthèse, il y a toutes les histoires, on revient sur les histoires de intervention de Sarko, Platini pour le mondial, pour que le Qatar vienne au PSG, mais, ben, qu'est-ce qu'il y a de neuf, en fait?
Alors, c'est pour ça que ça fait un peu un soufflet, parce que concrètement,
truc,
si on suit un peu le football.
Bah, c'est le fait qu'il y ait un accord avec l'UEFA, c'était une chose qu'on savait
alors,
pas
voilà,
nécessairement.
Voilà, ça, c'est la nouveauté. C'est le fait qu'il y ait eu une entente, un accord tacite entre Infantino, Platini et le Paris Saint-Germain.
Ce qui est quand même pas rien, d'ailleurs.
C'est des accords qui peuvent Platini être faits avec d'autres clubs.
C'est des tractations, finalement. C'est des négociations autour d'une table. On négocie, on dit, écoute, concrètement, notre contrat est estimé à temps. Nous, on estime qu'il a pas cette valeur. On trouve un accord. On trouve, voilà, on négocie une amende. Après, une sanction arrive. Mais concrètement, quand bien même le Paris Saint-Germain n'aurait pas respecté les accords du fair-play financier, il y a eu une sanction de l'UEFA qu'on connaissait déjà.
Il y en a eu deux.
Il y en a eu deux depuis 2011.
Ouais, parce que tous ceux qui disent exclut la Ligue, mais en fait non
parce qu'il y a eu justement. C'est pour ça que en termes juridiques, il n'y a pas eu de méfait.
Bah oui.
Il n'y a pas eu de méfait. Moralement, ça peut être condamnable. On peut dire que politiquement, le fait que Nicolas Sarkozy soit intervenu négociation, bien ça sûr. Peut être moralement condamnable.
Mais alors attends, parce que là tu soulèves une autre question. Mais est-ce que d'un point de vue purement légal, le fair-play financier a raison d'exister?
Bah, c'est encore un autre.
Il existe.
C'est le nœud du problème.
Il existe dans les faits, mais tu peux non pas le contourner, mais tu peux te
mettre.
Bah non, parce que concrètement, l'UEFA l'a validé. Ça qui est bizarre, c'est que c'est pas tu vas pas contourner, tu vas pas faire ce qu'on appelle de la fraude ou de l'optimisation. Tu vas rester dans les clous du fair-play financier avec des contrats qui ne sont pas signés à leur valeur réelle. Mais concrètement, l'UEFA n'a pas fermé les yeux, elle a dit ok. Elle était au courant, l'instance européenne était au courant de la surestimation, de la surévaluation du Paris Saint-Germain, et a simplement fermé les yeux. Et là, ce qui est plus inquiétant à la rigueur, dans l'article de Mediapart, c'est qu'on ait justement des citations de gens de l'UEFA qui auraient dit, vraiment au conditionnel, on ne va pas sanctionner le Paris Saint-Germain parce qu'on ne peut pas prendre le risque de suspendre le PSG de Ligue des Champions, de virer un grand club européen, de virer des grands joueurs européens pour le business.
Mais c'est mis entre guillemets. Toujours.
Alors, il y a le business,
c'est toujours ça.
Il y a le business et la politique. Hein. Il s'est aussi expliqué. Alors, les dirigeants de l'UEFA auraient dit, c'est un État qui est puissant.
Bien sûr. Voilà,
qui est oui. Et on peut pas se mettre le Qatar à
oui. Mais c'est le business mais parce comme... que c'est aussi le Qatar qui apporte des financements et un sponsoring, qui est aussi le sponsor du Barça, qui est aussi.
Mais c'est business comme quand Riboloviev arrive à Monaco ou quand Abramovich arrive à Chelsea ou quand ou c'est business et intérêt.
C'est un peu la différence. Là, il y a une dimension diplomatique qui prend une dimension. Non, mais ça augmente.
Alors, c'est business aussi quand en Espagne, on fait des faveurs fiscales au Real, au Barça pendant des années.
C'est un État.
Ou en Italie, c'est un État qui, un État soutient les clubs pour le développement du football en accordant des privilèges financiers qu'une entreprise lambda n'aurait pas.
Oui, là où ça peut être mal pris finalement pour les supporters parisiens, c'est que avant le fair play financier, le roi en Espagne laissait passer les finances du Real.
C'est ce que le PSG répond d'ailleurs.
Oui, justement.
La réplique de Jean-Claude Blanc ce soir, Pierre, parle-nous de ça.
Vous voulez l'écouter d'ailleurs
la phrase, la phrase surtout, la dernière phrase.
La phrase, oui.
Alors, on va l'écouter d'abord.
Alors, on va l'écouter. Alors, Jean-Claude Blanc, qui est le directeur délégué du club, qui a répondu à une information concernant justement l'accord de QTA, là, l'Office du tourisme du Qatar, qui concerne alors la fin du contrat de QTA, puisque l'UEFA oblige le Paris Saint-Germain à mettre fin à ce contrat, là, en juin prochain. Il a répondu à ça, Jean-Claude Blanc. Écoutez-le.
Non seulement on veut vous réduire la valeur de ce montant quand on recalcule votre résultat de manière artificielle, mais en plus on vous demande de ne pas le re-signer. Donc c'est encore une fois une décision suite au recrutement de deux gros joueurs il y a 15 mois qui nous étonne, qui nous semble aller au-delà de ce qui avait toujours été défini par l'UEFA et donné comme règle au Paris Saint-Germain et que nous avions suivi. Manifestement, plus on avance, plus la ligne est reculée et ça devient difficile de conduire un club qui a 700 salariés, qui développe une stratégie à long terme préparée et réfléchie. Et donc c'est difficile d'avoir des règles au niveau européen qui changent en permanence.
Voilà, alors ça c'est la réaction de Jean-Claude Blanc au fameux contrat de sponsoring. Et c'est maintenant parce qu'il critique même le concept du fair-play financier, le dirigeant parisien.
Je crois que les règles du fair-play, elles ont été petit à petit détournées pour empêcher des nouveaux entrants de venir perturber finalement un cartel bien organisé de quelques clubs qui se partagent les titres depuis pas mal d'années. Mais si une fois que l'on suit toutes vos règles, nous arrivons malgré tout à intégrer deux grands joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde et pour tirer vers le haut tout le football français, si à ce moment-là ça dérange tellement qu'il faut que ces règles qui avaient été définies soient modifiées à nouveau pour nous empêcher d'intervenir, à un moment peut-être faut-il arrêter d'être un bon élève.
Alors là,
imagine ce qu'il dit.
Il faut arrêter.
C'est une contre-attaque.
Bien sûr. Ils ont un moyen de le faire.
Mais bien sûr.
Le Qatar possède des clubs en Asie. Ils peuvent acheter des joueurs parce que le fair play financier ne concerne que l'UEFA. Ils pourraient acheter des joueurs en Asie, les prêter au Paris Saint-Germain.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et là, peut-être que l'UEFA dirait, on va plafonner le nombre de prêts. Si vraiment.
D'ailleurs, on discute en ce moment, mais.
Oui, justement, mais si vraiment on part du principe que le fair play financier a été créé d'abord et avant tout pour bloquer la hiérarchie européenne et pour protéger les grands clubs historiques. C'est clair qu'on peut se poser la question vis-à-vis de Manchester City et vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Ils arrivent avec des investissements, ils arrivent avec de gros investissements étrangers à imposer des millions et à chercher à concurrencer Manchester, Chelsea, le Real, le Barça. Et dès lors qu'ils y arrivent, on leur met des bâtons dans les roues. On leur dit, non, vous ne pouvez pas dépenser plus que raison. Et l'autre élément qui, à mon sens, pourrait être critiquable, c'est le fait que ça parte pas d'une dette. Quand le Barça, quand le Real, quand Chelsea investissent, ils empruntent, ils s'endettent. Là, l'argent... alors, effectivement du Qatar, mais c'est des fonds propres. C'est le Qatar qui vient avec son argent. C'est comme si, par exemple, c'est comme si tu gagnes au loto, tu gagnes 1 milliard au loto, ce qui est d'ailleurs possible avec le loto américain, et tu ne peux pas dépenser 500 millions d'euros pour t'acheter les meilleurs joueurs. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas dépenser autant que tu veux, quand bien même c'est ton argent. Et c'est ce que critique ici le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que finalement, on a signé des contrats qui ont telle valeur marchande. Contractuellement, ça nous rapporte 145 millions d'euros par an. Sauf que l'UEFA a dit non, il vaut 60 millions d'euros. Ils empochent.
C'est purement arbitraire, tu veux dire.
À mon sens, on peut le prendre comme ça. Ça dépend où on se place, si on est plutôt pour le côté
libéral ou.
Voilà. Mais ça pose la question tout simplement du capitalisme, du libéralisme et de ses règles et de quelle forme de règles tu veux mettre dedans. Finalement, On en revient tout le temps à cette comparaison. Le pays le plus capitaliste du monde, les États-Unis, et qui ont...
Tu veux en venir ?
Pardon ?
Je vois où tu veux en venir.
Ouais. A un championnat qui s'appelle la NBA. Et ben eux ils l'ont fermé et à l'intérieur.
Mais même pour le foot. Hein.
Et à l'intérieur ils ont mis des règles qui ressemblent plus à du socialisme presque.
Bien sûr.
Mais eux en le fermant et donc en faisant ils.
Oh mais c'est un entre-soi.
Je sais pas si
même.
On peut appeler ça d'équité. Oui.
Mais oui mais au moins ça,
ils l'ont fermé mais ils garantissent des règles.
Ouais, oui. Pérennité.
Et
ouais.
Voilà voilà. Après je sais pas s'il y a une égalité à l'intérieur. Pas non plus. Donc.
Non parce que c'est donner le budget
c'est
de départ.
C'est une dotation égalitaire entre voilà. Tous les clubs.
Donc soit en Europe t'arrives à faire une ligue fermée où tu mettras un salary cap. Tiens, tout le monde, c'est un peu comme attends. Si en Formule 1, vous avez tous le même moteur.
Daniel, puisque tu parles de ça.
Vous avez tous, en gros, vous avez tous le même moteur.
Puisque tu parles de ça, alors, tu sais que Football League, c'est pas que Mediapart, hein, c'est plusieurs, voilà, c'est un pool de plusieurs entités. Parmi les révélations.
Plusieurs entités qui sont, pour la plupart, quand même, marquées politiquement.
Oui, oui. Mais parmi les révélations.
Très à gauche.
Parmi les révélations du jour.
Il faut le prendre aussi en compte parce que c'est un combat pour eux aussi.
Parmi les révélations du jour, il y a 11 clubs en Europe qui veulent créer une Super League européenne, justement.
Bien sûr.
Voilà. Plus 5 invités, je crois, c'est ça.
Plus 5 invités, dont l'Olympique de Marseille. Parmi les 11, il y a Paris.
Jacques-Henri Hérault en a parlé il y a deux jours.
T'imagines les droits télé? Pour cette ligue.
Non, mais c'est surtout que ça veut dire. Non, mais tu sais ce que ça veut dire? La fameuse menace de Jean-Claude Blanc. C'est l'UEFA. Si vous continuez de nous les casser, nous les briser avec la Ligue des Champions.
Bien sûr.
On va se faire notre petite ligue à côté entre nous. Et notre argent.
Sauf que dans la petite ligue à côté, en ce moment, le PSG est en conflit avec la plupart de ces clubs-là. Mais peut-être qu'autour du business, s'ils se disent,
oui,
bon,
mais
à l'intérieur, on mettra des règles.
Mais...
Là, ils vont d'un coup, ils vont redevenir copains. Ouais. Et là, Tebas, il dira plus rien.
Oui. Ouais. Mais attends, de façon, justement. Mais
donc, on est en plein dans le cynisme du capitalisme, quoi.
On est en plein dedans. Ouais. Et si tu veux réguler un système dérégulé, c'est extrêmement difficile. Parce que tu fais quoi? Tu sanctionnes tout le monde ou tu sanctionnes uniquement les nouveaux riches, entre guillemets? Si vraiment tu voulais imposer un fair play financier équitable, t'aurais aussi dû attaquer la dette passée des clubs historiques. T'aurais aussi dû attaquer la dette de Chelsea, la dette du Real, la dette du Barça.
C'est déjà fini, les gars.
Si tu sanctionnes le PSG sur les deux transferts qu'ils ont fait, on va au Barça et à Monaco et puis ils récupèrent l'oseille.
Merci pour tes explications, Pierre.
Ils reviennent la semaine internationale, là. Il faut qu'on
juste deux petits débats. On rappelle que le PSG s'est imposé 2-1 face à Lille. Thomas Tuchel a déclaré en conf de presse, c'était notre meilleur match cette saison, a déclaré l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et Neymar a dit, on a vraiment été une équipe ce soir. Thiago Silva.
Eh ben, c'est mardi que ça se verra. C'est mardi que ça se verra.
C'est vraiment une équipe ce soir. Merci Daniel Riolo.
C'est mardi que ça se verra.
Merci Ludovic. Merci à Jérôme Thomas. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Et on se dit à demain, bien entendu. Bisous, ciao.